Vous écoutez
RMC.
RMC.
Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
J'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football.
Ici, c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zig automatique de Mac.
C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à 1h du matin avec la libre antenne tout à l'heure à minuit. L'after est là sur RMC, l'after est sur YouTube également sur la chaîne de l'after, after-foot. L'after, vous le savez, votre espace de liberté à vous les supporters, acteurs du foot. Appelez-nous le 32-16, supporters marseillais, on vous attend notamment avec Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Et Walid Acherchour. Walid, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
On va analyser les matchs du jour, surtout Marseille-Bergame évidemment, l'actu également. Au programme, un partout entre l'OM et l'Atalanta. Et les matchs qui ne sont pas terminés, notamment Roma Leverkusen. Edgar Grollo, bonsoir.
Oui, on a dépassé le temps additionnel. Bonsoir à tous. 2-0 pour Leverkusen face à la Roma. Et bah c'est terminé. Timing parfait, bravo Gilbert. Non, il a sifflé un coup franc. Ouais, c'est bon, c'est terminé. François Le Texier qui siffle trois fois. Victoire 2-0 de Leverkusen sur la pelouse de la Roma. Le but de Wirtz à la 28e et le but sublime d'Andrich à la 73e. Une frappe de l'extérieur de la surface. 2-0, score final pour Leverkusen à la Roma.
Leverkusen donc, bon, on peut le dire quasiment en finale.
Ça fait 47 matchs d'affilée sans défaite surtout.
Ils attendent la finale contre l'OM peut-être.
47 matchs sans défaite, on doit envisager qu'ils aillent perdre le... Non, ils vont jouer ce week-end, donc le 49e, 3-0 à domicile. Ou enfin par 2 buts d'écart à domicile. C'est un effort d'imagination que je ne vais pas pouvoir faire.
Et l'équipe?
Je n'y arriverai pas.
Pendant ce temps-là, en conférence Ligue, c'est quasi terminé. Olympiakos, surprise, gagne 4-2 à Aston Villa. Et il y a 3-2 pour la Fiorentina qui vient de marquer face à Bruges. 3-2 pour les Italiens. Là aussi, le match n'est pas tout à fait terminé.
C'est très étonnant, le 4-2 de Aston Villa.
Ah oui, Olympiakos, c'est étonnant.
Avec un triplé de Kabi Nueve. El Kabi.
Ouais.
On surnomme Kabi Nueve pour le KB9.
Exactement.
Kabi un triplé.
Les 3 points, les gars. C'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, de quoi tu veux parler ?
Bah dans ce match moyen, j'ai trouvé que finalement l'OM a réalisé une performance au-dessus de ce à quoi on pouvait s'attendre, au vu de tout ce qu'on pensait et sur la qualité des deux équipes. Le point 2, bah, c'est justement l'Atalanta qui n'est pas aussi fort qu'on pouvait le penser. On en parlera sur la façon où l'OM aussi, en jouant bas et l'option choisie tactique, a certainement bien réussi à empêcher l'Atalanta de jouer, qui n'est pas venu non plus avec les épées hein, ce soir. J'ai l'impression que le 1 partout, à un moment, ça leur allait bien. Et le troisième point, alors je vais rester sur ce match, allez, même s'il y en a plein d'autres, mais même en termes d'individualité, j'en sors plus côté OM que je vais en sortir côté Atalanta, avec en homme fort de cette équipe de l'OM, le défenseur Balerdi, qui est devenu le vrai patron de cette équipe, quoi. Voilà.
Wade,
on a les mêmes 3 points, je crois. Le premier
ça,
point.
C'est quand t'as pas révisé que tu copies,
non,
quoi.
Non, pas du tout. Si tu m'avais lancé en premier, j'aurais dit peut-être la même chose, sûrement la même chose. Mon premier point, c'est des regrets pour l'Olympique de Marseille. Parce que je pense que dans ce match-là, la réaction, elle a été bonne. Alors, c'est toujours, encore une fois, de manière assez rustre techniquement, mais l'envie et l'état d'esprit olympien a été, aurait dû être récompensé par une victoire, je pense, ce soir. Mon deuxième point, c'est l'Atalanta. Avec tout ce qu'on en a dit, avec ce qu'ils ont montré, notamment contre Liverpool, notamment à l'aller, je m'imaginais, je pensais voir une équipe italienne bien, bien supérieure ce soir et j'étais très déçu. Et mon troisième point, c'est Balerdi. Comment ne pas aimer ce défenseur et comment ne pas voir ce qu'il est en train de faire cette saison, parce qu'il a encore fait un match extraordinaire.
Alors, avant de rentrer dans les détails, tout à l'heure, Eric Dimeco, là, en rendant l'antenne à la fin du match, disait que lui, ce qui l'inquiétait, c'est que l'OM à l'extérieur cette saison, c'est pas ça du tout. Donc, du coup, il était moyennement confiant.
Non, mais.
Qu'est-ce que vous dites, vous, sur les chances de qualif?
Oui, mais il n'en
reste pas. C'est un résultat qui est pour moi pas favorable pour l'OM.
C'est pas un bon résultat, mais néanmoins, avant la rencontre, enfin, je rappelle quand même, sur cette saison, avant Villarreal, tendu pour que ça passe. Et je rappelle le match retour où ils ont tous terminé avec la culotte bien pleine. Benfica, ça doit pas passer. Mmh. Ça pouvait pas passer. C'est passé. L'Atalanta, limite, on était, et je me mets dedans, à considérer que dès le match aller, ça pouvait être bouclé. On parle d'une équipe qui est allée coller 3-0 à Liverpool à Anfield. Alors oui, équipe remaniée, tout ce que tu veux, mais enfin ça reste Liverpool qui était dans son rêve d'offrir une belle fin de saison à Klopp. Je suis pas sûr qu'ils étaient en claquette quand même, Liverpool.
Et puis il faut mettre 3-0 à Liverpool quoi qu'il arrive. Hein.
Exactement, ils sont quand même allés leur coller une danse. Là, ils viennent au Vélodrome, on pense tous que l'OM va souffrir, c'est pas ce qu'on voit. Tu me demandes les chances de qualif. Je vais continuer et comme j'arrête pas de dire à chaque fois, ben peut-être que les supporters de l'OM vont prendre ça comme un signe. Personne ne les voit jamais passer. Mmh. Et ben écoute, je pense pas que ça les froisse énormément les supporters de l'OM parce qu'ils se disent ben on verra bien où l'aventure va s'arrêter. Je rappelle en 2018, c'est difficile de faire des comparaisons dans le temps, mais j'ai souvenir que même contre Salzbourg, on avait dit ça passera pas.
C'était
contre
compliqué Leipzig, dans le jeu. Ouais.
Parce que c'était des équipes qui jouaient très bien à l'époque. Contre Leipzig, pareil, ça devait pas passer, mais de je sais pas passer, et c'était passé. Bon, ben là, oui, un partout à domicile. Alors, ça n'a pas la même valeur que quand il y avait le but à l'extérieur, mais écoute, ça doit pas passer.
Après, l'équipe de 2018 était quand même meilleure par rapport à celle que, en tout cas, en individualité, moi, je trouve que, le duo Thauvin Payet, Luis Gustavo, derrière, c'était solide.
Un ou deux joueurs, mais c'était pas transcendant.
Oui, aussi, il y avait beaucoup d'absence. C'est vrai. Mais après, pour revenir sur le match, il y a de l'espoir parce que, moi, je trouve que, dans le rapport de force que tu as eu face à l'Atalanta, j'ai pas vu, ce qu'on attendait. J'ai pas vu une équipe de l'Atalanta te mettre en grand danger. Hormis, les 15 premières minutes où les Italiens sont très très bien rentrés dans le match et ils ont été récompensés par le but. Maintenant, comme l'a dit Eric, c'est la première fois cette saison que tu vas devoir aller gagner, chercher une victoire. Enfin, pas qu'une victoire parce que tu peux aller à la séance de tir au but, mais aller chercher ta qualif là-bas. Il l'avait fait contre Villarreal, mais avec un score quand même nettement supérieur avec le 4-0. Là, il va falloir faire un gros résultat à l'Atalanta.
Au retour, ils sont fait tort.
Contre Benfica, c'était au Vélodrome. Contre le Shakhtar Donetsk, qui avait eu 2-2 à l'aller, c'était derrière au Vélodrome. Là, c'est quand même une copie différente.
À chaque fois, il faut qu'ils nous montrent quelque chose qu'ils nous n'ont pas montré. D'où, forcément, un déficit de confiance par rapport à eux. Maintenant, voilà, qu'ils y aillent. De toute façon, là, maintenant, après ce 1 partout.
Bon, sachant que l'Atalanta jouera ce week-end, contrairement à l'OM, et joue lundi, l'Atalanta.
Pour un match jeudi
Ouais, ils jouent lundi à 18h à la Salernitana.
Ils sont dans la baston pour la 6ème place.
Ouais.
La 5ème
place. Pour la 5ème place.
Ils sont même dans la baston pour la 5ème place. Ils sont 5ème. Ouais. Non, ils sont 6ème.
Parce que la 5ème place sera qualificative pour la Ligue des Champions.
Voilà. Donc, ils ont ce truc-là aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils pourront faire tourner. Maintenant, à domicile. Je pense qu'on va retrouver le vrai visage de l'Atalanta avec le gros pressing, l'équipe qui va, je pense, être d'un autre niveau. De toute façon, on n'imagine pas que l'OM ira faire le jeu là-bas. Mais ce soir, ils l'ont pas fait non plus. Ça ne les a pas empêchés de se créer plus d'occasions que l'Atalanta ce soir. Ils vont jouer en transition. Ils vont toujours avoir leurs hommes forts et autour des mecs qui font un peu ce qu'ils peuvent. Les hommes forts, bah, c'est Balerdi, c'est Vertu qui joue pour, il joue pour trois joueurs.
Ouais.
Vertu, il joue pour 3.
C'est sûr qu'il a pas joué pour Grenoble. Il a joué pour Grenoble bien aussi, là, ce soir.
Ouais, oui, mais il joue pour 3. Décevant encore. Ouais. Il joue pour 3. Moi, tu me dis
qu'il y a. Et il rajoute Aubameyang dans la liste.
Et Harry,
tu m'as pas laissé arriver jusqu'au bout. Mais Aubameyang, attention. Alors, Aubameyang, évidemment, c'est lui qui porte l'équipe.
Pour ce soir, il a pas.
Mais ce soir, il a quand même à.
Il en mange une.
C'est pas un vrai 1-1 parce qu'il est pas tout près. Mais néanmoins, c'est une grosse occasion pour lui.
Avant la mi-temps.
Grosse occasion pour lui. Et celle-là, s'il la met. Bah justement là tu entres dans le Aubameyang symbole, ouais. Le gars qui porte toute l'équipe et toi. Ce soir on va dire qu'il a été en dessous par rapport à l'image du sauveur qu'il a depuis.
Même si c'est lui qui donne le ballon pour Unai sur la barre etc. Mais je suis d'accord avec Daniel. La grosse occasion tu dois la mettre. Surtout qu'en plus Harit fait le bon choix pour le coup et souvent il fait les mauvais choix.
Bah, c'est le seul bon choix qu'il a fait dans le match Harit.
Même si Harit moi je l'ai pas trouvé. Non, je suis souvent dur avec lui. Il a pas été catastrophique. Dans la première mi-temps il est intéressant.
Il fait quand même. Il est
positif.
Court, bon, de temps en temps, c'est vrai qu'il t'énerve parce qu'il fait le mauvais choix.
Il l'a fait moins de fois ce soir.
En fait, c'est censé être le joueur créatif du milieu. Et comme il a des qualités et que c'est un mec qui, au milieu, quand il a le ballon, qu'il a un peu de place, il a largement les qualités pour donner des bons ballons et pour, en gros, éclairer le jeu. le rapport entre ses qualités intrinsèques et le nombre de fois où il prend la bonne décision et où il est clair, il est déficitaire ce rapport-là. Mmh. Et c'est emmerdant parce que c'est le joueur créatif. Mais souvent, donc il est plus souvent décevant. Oui. Que satisfaisant. Non,
mais je suis d'accord, c'est souvent le cas. Et notamment à Benfica, il y a deux semaines, ça a été une caricature de mauvais choix. Là, aujourd'hui, ça a été un peu moins le cas. Il a été plutôt positif pour l'équipe. Mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est-à-dire sur la capacité à pouvoir être tranchant en transition, c'est vrai que le match retour peut te laisser de l'espoir dans ce système-là, parce que tu vas laisser le jeu à l'Atalanta. Il y a que un partout, donc l'Atalanta va aussi devoir je vais pas dire jouer son va-tout, mais jouer au football. De toute façon, c'est leur identité. Et derrière, avec la relance de Balerdi, avec les courses de Veretout et Harit, et avec un Aubameyang, avec un Ismail Assar, s'il est un peu mieux inspiré, parce que ça encore été très compliqué.
Tu vas chercher un peu trop loin là.
Non mais il y a
tu veux pas t'arrêter juste avant?
Oui, j'aurais pu m'arrêter.
Non, je dis que c'est Aubameyang si l'OM se qualifie, t'auras un grand Aubameyang.
Oui, quoi. sûrement, mais je pense que
compte pas trop sur les autres.
Non mais tu peux avoir les qualités. ça va, j'ai compté sur 4 joueurs. La même chose, un Jonathan Clauss. Il a été décevant aujourd'hui. Mmh. J'attends un peu plus de Jonathan Clauss. Lui,
visiblement, oui.
Attends, faites pas l'évaluation. Non, avant l'évaluation. Non, mais je vous signale que c'est terminé en Conference League. Donc victoire de l'Olympiakos 4-2 à Aston Villa, surprise, et victoire de la Fiorentina 3-2 contre Bruges. On peut dire que c'est un match encore ouvert. On verra ce qui se passe au retour.
Puisqu'on parlait de joueurs, j'avais souligné quand il est revenu là que j'étais étonné par ce qu'il était capable de faire. Je continue de l'être.
Luis Enrique
est pas la grosse pipe du premier passage.
Ah non, pas du
quand
tout.
Quand on se moquait de lui, Mbappé, Igno et machin, ouais. Truc et tout. Bon, il est un peu baladé à toutes les places possibles, mais n'empêche, il est vaillant, il est là, il est pas maladroit
sur la première grosse occasion là.
Absolument, superbe.
Attends, mais
il est pas maladroit avec ses pieds. C'est franchement une belle petite surprise du moment pour l'OM.
Il est dans le bon coup aussi sur le but hors jeu refusé à un millimètre là, où c'est lui qui fait le centre, même si j'aurais aimé qu'il le mette dans un premier temps, en première intention. Mais ouais, c'est vrai que Luis Enrique, il fait un gros retour pour l'instant.
Et l'OM qui a pas fini sur les rotules comme on les voit ces derniers matchs où les mecs avaient tous des crampes et tout, ils ont l'air d'être un peu mieux là.
Ils ont peut-être aussi un petit signe positif en vue du retour.
Ils ont une semaine totale pour se préparer.
Adam, pardon, est là. Bonsoir Adam.
Salut Gilbert, Daniel, Walid, bonsoir à tous.
Salut. Bon, tu gardes espoir ?
Oui, bien sûr. Même si après un match comme ça, t'es obligé d'être frustré, je pense. C'est le premier sentiment que t'as quand tu sors de ce match, quand tu fais le bilan des occasions que t'as eues et les occasions que t'as concédées, t'es obligé d'avoir des regrets. Vous avez déjà parlé des énormes occasions que Aubameyang a vendu danger. La frappe de Naï, bon, c'est pas une occasion énorme en soi. Elle finit sur l'équerre, c'est hyper frustrant. Mais une fois que t'as passé ce sentiment-là, moi, en tout cas, mon avis, c'est que c'est quand même hyper positif. C'est une très belle soirée. Il y a énormément de signaux positifs. Les 11 joueurs titulaires ont fait tous un match à minima correct. Il n'y a pas eu de match dégueulasse. Et tous ceux qui ont entré ont apporté un plus. J'ai trouvé que Unai a fait une super entrée. Ndiaye, vraiment très très bon.
Il faut qu'il aille un peu plus sur certaines situations.
Oui, mais on le connaît. On commence à le connaître par cœur. Ivan Ndiaye, comparé à ce qu'il a fait les premiers mois, franchement, on est vraiment sur une progression là. Depuis les dernières sorties qu'on le voit faire. Je dis pas qu'il doit être titulaire à tout prix, mais en tout cas, 20, 25 minutes à la fin des matchs, il peut clairement faire la différence. Quentin Merlin fait une bonne entrée aussi. Vous avez déjà parlé du milieu, Kondogbia, qui est vraiment pas terrible en ce moment, et Veretout qui fait le taf. Je trouve que globalement, c'est quand même
très positif. Veretout, il fait pas le taf. Excuse-moi, Veretout, il fait le taf pour 3, Veretout.
Oui. Non, mais
je trouve que c'est réducteur de dire il fait le taf, parce que faire le taf, c'est genre 5 sur 10. Veretout, il est. Si, honnêtement, moi, demain tu me dis la liste des mecs qui doivent absolument pas manquer pour le match retour. Genre, un mec vient et il te dit tu dois m'enlever des joueurs.
Il y en a 3.
Bah, Aubameyang, Balerdi, Veretout. Hein.
Bah, tu les as.
Oui. Non, mais je te rejoins sur ça, Daniel.
Il est là, quoi. C'est le gars essentiel.
Il est généreux, il fait des grandes courses, il est tout le temps là.
Il donne des bons ballons, il les donne vite, il essaye au mieux. Et s'il y avait des gens pour courir à côté de lui, il serait peut-être même un petit peu plus frais au moment d'être dans la zone un peu haute, quoi. Souvent, il arrive cramé.
Quand tu vois son collègue à côté.
Je suis d'accord, les gars, mais il faut se rappeler de la carrière.
J'étais un grand fan de Kondogbia et je pensais que ça allait être un très très bon choix de recrue, mais
forcément, c'est constaté que c'est très bien.
C'est marrant, depuis tout à l'heure, vous ne parlez que des joueurs à part un. Mais il y a un truc quand même.
Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, cette équipe, tu vois bien ce qu'elle propose tactiquement. En fait, ça dépend de la prestation des mecs. Mmh. Elle est là, elle se met bas sur le terrain. Ce soir, ils étaient trois dans l'axe.
Mais t'as même autre chose, c'est que c'est une équipe
à cinq.
Absolument jamais compacte. C'est une équipe qui est étalée en permanence.
Les lignes sont distendues.
Les lignes,
c'est une sorte de bus.
Tu vois pas à ce niveau-là.
C'est une sorte de bus.
Au début, pas tout le temps. Pas tout le temps.
Non, mais en deuxième mi-temps,
mais en deuxième mi-temps,
en fait, ils attendent
le premier but est quand même révélateur, les gars. Le premier but, c'est quand même incroyable que tous les joueurs soient à 2 mètres de Scamacca, qu'il ait le temps de contrôler comme ça, d'ajuster.
Moi,
c'est pas normal.
Moi, j'ai eu très peur sur le début de match.
Il y a un bus avec
Moi, je suis sûr qu'à 1-0, j'étais pas bien aussi, Walid. Ça, c'est clair. Mais par contre, là où on peut faire un parallèle sur depuis l'arrivée de Jean-Luc Gasset, c'est que c'était la même chose contre le Shakhtar. Je sais pas si vous vous rappelez. Tu prends un but, hein. T'es mené 1-0 au Vélodrome face au Shakhtar. Et je peux te dire
dans ma liste des clubs étonnants que l'OM a sorti, le Shakhtar aussi, j'ai oublié de les citer.
Oui. Et c'est pas rien, le Shakhtar, hein. Faut quand même pas oublier ce qu'est ce club.
Je suis d'accord.
Voilà.
Je suis d'accord.
Et quand t'es mené 1-0 au Vélodrome après le 2-2 hyper frustrant de l'aller là-bas, je peux te dire que, on n'était pas très bien, hein, vraiment. Et donc cette équipe, t'es obligé de se souvenir qu'elle a du caractère. Évidemment que c'est pas tous des fins techniciens et que nos meilleurs techniciens, vous en avez parlé notamment.
Les fins techniciens, c'est la façon dont joue l'équipe. T'as l'impression ils sont là, ils sont placés défensivement à 5. Puis après c'est je pousse le ballon devant et puis pour l'instant ça marche comme ça.
Oui, c'est
un jeu rustique. Hein.
Faut pas exagérer. Je trouve que c'est quand même très très réducteur. Moi je te rejoins pas là-dessus.
C'est réducteur. Tu mets un but avec une frappe de Mbemba. Je pense qu'il la retente 150 fois. Il la mettra pas de ce côté-là, enroulé pied droit, qui retombe comme ça.
Non, mais d'accord. Mais il y a eu 5 situations hyper franches, Daniel, ce soir. L'extérieur de Bucel-Riquet, le centre, il est magnifique.
Non, mais attends. Je l'ai dit, moi, que contrairement à tout ce qu'on attendait, l'OM montrait un visage plus intéressant que l'Atalanta. Ça, je te l'ai dit.
Non, mais il y a eu des montagnes russes. C'est-à-dire que sur la première mi-temps, c'est vrai qu'il y a des séquences de jeu où on sent que il y a pas de maîtrise du ballon. Il n'y a pas de temps fort de l'Olympique de Marseille en première mi-temps, hein, où on sent que ça fait vivre le ballon. Par contre, c'est à la récupération du ballon, on essaye de jouer très très vite. Bah, l'image un peu du but, de la grosse occasion d'Aubameyang avant la mi-temps, où c'est Ismaïla Sarr qui est au duel. Derrière, Veretout récupère le ballon.
Le ballon de Veretout, c'est très très bon ce ballon.
Et derrière, tu vas te procurer des situations. En deuxième mi-temps, par contre, là, je te rejoins, c'était un peu mieux, c'était plus construit, même si techniquement, on n'était pas sur le Barça 2011, mais globalement, on essayait de trouver Luis Enrique, Harit était un peu plus touché, la rentrée d'Unai aussi, elle a fait un peu de bien dans le contrôle.
Ndiaye
aussi, donc c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, moi j'ai l'Atalanta, hormis Lookman, qui a fait à un moment donné une espèce
de raid solitaire,
mais sinon, vraiment, il a sorti Scamacca très très tôt, j'étais très très surpris qu'il sorte aussitôt, même s'il a bien été usé par
Balerdi. Après, attention, d'ailleurs, sur ça, Walid, tu me permets de rebondir parce que attention, hein, l'Atalanta, ils n'étaient pas à fond pour moi ce soir. Clairement, deuxième mi-temps,
ils
enchaînent.
Ils sont pas à fond ce soir, ils vont être à fond quand en fait.
Attends, je regarde.
Ce serait quand même une drôle de tentative de maîtrise absolue de dire.
Beaucoup de condescendance.
Ce soir, on se tient sur le 1 partout. Après, on a un match de championnat et on règle l'addition.
Ils sont quand même encore alignés sur les trois tableaux. L'Atalanta, ils jouent la finale de la Coupe d'Italie.
Oui, d'accord.
Mais Anfield sur le 3-0, ils étaient à fond ou ils n'étaient pas à fond en fait.
Non, mais Walid, c'est pas ça que je dis. Je minimise pas la performance de l'OM, j'essaie juste d'être lucide. L'Atalanta, si on me dit qu'en deuxième mi-temps, les mecs, ils étaient tous à fond en transe pour aller chercher la victoire, pas du tout, c'était clairement pas les consignes.
T'as raison là-dessus, c'est indéniable.
Ils voyaient ce qui allait se passer,
C'est une volonté ou c'est une gestion
subie? Ah, c'est une volonté, clairement, mais bien sûr, t'es en demi-finale de Coupe d'Europe, là.
Honnêtement, l'Atalanta, sur toute la seconde période, tu vois pas une course vers l'avant, tu vois pas le pressing qu'ils mettent d'habitude. Moi, je veux.
Benfica au retour. Hein.
Alors, ça veut dire que l'OM réussit à les anesthésier.
Je sais pas.
Benfica au retour,
t'as eu les occasions qu'ils ont eues.
Oh, c'est pas énorme.
Ah, tu plaisantes. Jamais ils doivent le perdre, le match.
Ah bon?
Ça doit jamais faire 1-0 pour l'OM, le match.
Pas cette lecture.
Tu veux pas les occasions à la fin?
Oui, bah oui, d'accord. En transition, au bout de 120 minutes, ils ont 2-3 occasions. Mais c'est pas non plus. C'est pas ébouriffant, quoi, Benfica.
Non, quand même. Non, mais j'ai pas dit que c'était étourdissant. J'ai dit que c'est mieux que ce qu'a proposé l'Atalanta ce soir en termes d'occasions.
Comme tu l'as dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a des adversaires de l'Olympique de Marseille, on se dit ils vont les tordre en deux. Et moi, pour l'instant, hormis Villarreal au retour, qui par contre, là vraiment, ils les ont vraiment tordus en deux, je vois pas cette différence-là pour l'instant.
Tiens, j'ai un message de Florent Gautreau, il était au stade. Florent.
Ah oui.
Il me fait ses 3 points comme ça par SMS. Donc je vous propose de.
Il est payé ou quoi?
Non, c'est gratuit.
Allez.
C'est gratuit. Il nous dit 1, Balerdi énorme.
Ah ben bah c'est. Eh bien Flo quand même cette saison on est quand même d'accord sur pas mal de choses quand même.
Et ça il faut le dire à Stéphane Guy quand même hein. les gars, si vous pouvez lui envoyer un petit message sur Balerdi juste pour avoir son avis.
On lui dira la prochaine fois.
Il nous dit Mbemba aussi top. Ouais. Et il nous dit Aubameyang très souvent râleur et très frustré par les mauvais choix de ses coéquipiers, surtout Ndiaye à la fin.
D'accord.
À la fin sur le cas d'Ndiaye, oui ben bah ça ouais. C'est bon, il y a pas grand chose à dire je pense. C'est juste un grand joueur, un grand attaquant, il est frustré quand il a pas les ballons, il rate quand même une énorme occasion, lui ce soir Aubameyang il devrait plutôt faire profil bas je pense pour se concentrer sur le match retour, mais Aubameyang il n'y a rien à dire là-dessus hein.
pour le retour et en plus il y a le retour de Samuel Gigot, donc tu vas avoir ta défense à 3 avec Mbemba.
Oui, bah, alors ça par contre
non, c'est la grande nouvelle ça. Non, je vais y venir
ça par contre là tu me fais flipper
mais ouais, non mais attendez enfin, attendez deux secondes je préfère quand même Gigot que jouer avec Murillo parce que sur le premier but Murillo il est pas
je suis
pas me faire passer pour un grand fan de Gigot, c'est juste que tu retrouves un titulaire. Merlin vient de faire une entrée, peut-être qu'avec la semaine il va pouvoir être titulaire, lui ou Luis Enrique. De toute façon tu vas faire un match, il va falloir faire un match de bonhomme au retour, et si tu as cette force défensive et cette capacité à pouvoir piquer en contre, tu peux leur faire mal hein, l'Atalanta hein. Moi je suis d'accord
mais moi je suis quand même. Merci à toi Gilbert, merci à tous.
Une défense à 3, Klos et Merlin en piston, Veretout, Kondogbia, Biarritz, et puis Aubameyang plus 1, on va voir si c'est Ndiaye ou c'est Ismail Assar. T'as de quoi les gêner. Hein.
Dans un instant, on va écouter Jean-Luc Veretout justement. Mais juste avant,
s'ils avaient fait rentrer Mbemba dans les 10 dernières minutes, tu te créais plus d'occas.
il est rentré Daniel.
Ah bon.
Ouais.
Mais c'est vrai toi, qu'il a fait dans le piège toi. Toi t'es vraiment naïf.
Non mais c'est vrai qu'il a fait une entrée qui est décevante.
Avant la pub, laissez-moi attends, faut faire la pub. D'abord, laissez-moi vous rappeler que l'expérience RMC continue.
Il faut qu'il arrête de
et que si vous entendez le petit son que vous connaissez là, celui-ci. Et ben vous pourrez jouer pour gagner vos places pour le match retour PSG Borussia Dortmund de mardi prochain au Parc des Princes. L'expérience RMC, vous avez les places de stade, vous avez également la visite des studios des RMC. Donc la totale, comme on n'est pas très loin du Parc des Princes, c'est pratique. Donc restez attentifs si ça tombe avant minuit. Dans un instant, donc on en écoute Veretout, on continue d'analyser le match avec Clément, avec Frédéric, il y aura l'évaluation et il y aura Yoann Crochet. 3 équipes italiennes ce soir, hein, donc il va nous faire un petit check-up, un petit résumé, pas check-up du tout, un petit résumé complet de la soirée italienne, plus l'actu du jour. Je vous parlerai de Reims avant minuit et également de Christophe Dugarry qui avait préparé son intervention sur les cendriers aujourd'hui dans Rotten sans flamme. Je vous la conseille, ce sera tout à l'heure.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Walid Acharchour est là, Daniel Riolo est là, n'oubliez pas la libre antenne tout à l'heure de minuit à 1h du matin. L'OM n'a pas gagné, mais l'OM n'a pas perdu. On continue le débat avec vous. Juste on va écouter coup, Jordan Veretout tout de suite, ouais, les gars. Et c'est un petit peu long, mais c'est intéressant. Puis bon, on considère quand même que c'était le taulier de l'OM ce soir. Homme du match, comme on dit dans l'évaluation. C'est parti, Jordan Veretout avec Florent Germain.
Oui, quelques regrets. Maintenant, il faut positiver. Je pense qu'on a fait un bon match. On les a regardés dans les yeux. On manque notre début de match, je pense, où ils marquent leur but. Et ensuite, on est parti les chercher un peu plus haut. On était un peu plus agressifs et on les a fait déjouer. On a su leur faire mal sur leur point faible. On a fait une deuxième mi-temps presque top. Il manque ce but qui aurait fait la différence. Maintenant, on est à 1-1. Il manque encore un match. Mais ce soir, on les a regardés dans les yeux. On sait de quoi on est capable et on va pouvoir faire un exploit là-bas.
Dans le jeu, concrètement, il y a des regrets sur l'occasion d'Aubameyang, par exemple, en fin de première période. Il y a aussi quelques déchets techniques qui vous ont peut-être manqué et qui vous ont pas permis de concrétiser une domination. C'est ça les regrets globalement, Jordan ?
Oui, on doit être meilleur techniquement. On a perdu des ballons trop faciles. Maintenant, c'est une demi-finale. Il y a l'enjeu. Mais je pense que deuxième mi-temps, on a fait de très bonnes choses. On s'est procuré pas mal d'occasions. Et eux, à part leur dernière action en fin de match, ils ont pratiquement rien. Ils ont pratiquement rien et pour une équipe comme ça que l'Atalanta n'a rien offensivement, c'est rare parce qu'offensivement normalement ils sont très 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 forts. On les a contenus et ensuite voilà, on les a regardés dans les yeux ce soir et faut rester positif.
Le grand point positif, Jordan, c'est que comme vous dites, vous les avez regardés dans les yeux et jeudi prochain, vous y allez avec la conviction que c'est possible. Parce qu'on avait prédit presque le pire, que l'Atalanta allait être une équipe au-dessus de l'OM, et finalement vous vous rendez compte que c'est jouable et que jeudi il y a un vrai coup à jouer.
Bien sûr c'est jouable. On a un match d'une qualification en finale. On va tout donner. On est l'Olympique de Marseille, on va aller là-bas. Il va y avoir nos supporters aussi qui vont faire le déplacement. On ne sera pas tout seul. Il y a toute une ville derrière nous et tout un peuple qui rêve de ça. Ils vont nous pousser toute la semaine, même devant leur télé la semaine prochaine. Mais voilà, on sait qu'on est capable de le faire et faudra sortir le gros match la semaine prochaine.
Voilà.
Et si finalement, dans cette très bonne interview de Jordan Veretout, ce qu'il y avait à retenir, c'est que eux-mêmes se sont surpris à résister aussi bien et à faire même mieux que résister et à être au-dessus en deuxième.
Comme il a dit, on les a regardés dans les yeux.
Il a répété 1000 fois cette expression-là. Mmh. Et finalement, Flo Germain a tout dit dans la dernière question quand il dit, mais finalement, tout le monde promettait un match terrible pour vous parce que tout le monde disait qu'ils étaient supérieurs. Et c'est vrai que tout le monde disait ça. Est-ce que les joueurs marseillais eux-mêmes se sont mis dans une position de petit, de challenger, pour se rendre compte au final qu'ils n'avaient pas un monstre face à eux et que ça peut les booster en vue de jeudi prochain?
Il a même dit, pour une équipe aussi forte offensivement, ils n'ont quasiment rien eu.
Bah oui, à part le premier quart d'heure, mais on est d'accord.
Il a
je pense qu'ils se sont fait un peu une montagne.
Mais je pense qu'il a donné une interview de challenger, ce qui n'est pas négatif. Hein. Attention, je ne dis pas ça parce que c'est négatif. Ils se sont rendus compte, eux aussi en tout cas, ont entendu tout ce qui se disait. Et eux aussi ont abordé la rencontre, évidemment, eux étaient sur le terrain, donc vaillants, avec l'idée de ne pas se faire malmener, mais avec l'idée qu'ils étaient moins forts. Et au final, ils font non seulement un partout, avec l'idée que dans la deuxième mi-temps, ils pouvaient peut-être gagner. Je pense que pour eux, c'est positif mentalement. Ce qui s'est passé ce soir est positif mentalement pour
d'accord.
eux.
On a Clément qui sort du stade. Salut Clément.
Oui, salut les gars.
Ça va?
Ouais, ça va un peu entre émotion positive et frustration, voilà.
C'est bien, non, quand même. Enfin, je veux dire, tu restes vivant pour le retour.
Partout à domicile, ça n'a quand même jamais été un bon
exactement.
Résultat.
Là, tu as un niveau de la compétition où on sait que ça va jouer sur des trucs un peu irrationnels, un exploit individuel peut-être, quelque chose. Enfin, voilà, moi je.
Bah là, en l'occurrence, l'exploit, sauf si tu les traînes au péno, il faut gagner le match. Hein.
Tu restes positif, Clément?
Bien sûr qu'on reste positif. Le seul truc qu'il y a, c'est que justement, quand on voit comment le stade, on l'entame, comment on joue, comment en fait on voit le niveau de l'Atalanta ce soir, il y a vraiment rien d'exceptionnel. Et c'est ça qui nous fait un petit peu de frustration à la fin du match. Pour moi, en tout cas, c'est qu'il y avait la place pour au moins en mettre un de plus qu'eux. Ils n'ont jamais été vraiment très dangereux offensivement. Je ne dis pas que nous, on a été particulièrement, à part une paire d'éclairs. Mais c'est ça qui fait la frustration. Après, bien sûr qu'on reste positif. Bien sûr que ça donne envie, c'est qu'on se dit qu'on a la place encore plus de faire ça là-bas. Et à Bergame, c'est pas à Marseille, c'est différent.
Ouais. Ça, c'est surtout ça, c'est que le contexte là-bas sera très différent. Cette année, on sait qu'il y a une équipe de l'OM au Vélodrome et une équipe à l'extérieur. Mais comme vient de le dire Daniel, il y a quand même des motifs d'espoir. Mais moi, je reste sur mon premier point du soir quand je dis que il y a des regrets ce soir. Il y a des regrets.
Il y a des regrets parce que les déchets techniques, parce qu'on pas comme il faut. Putain, on fait une touche, deux touches de balle. Oui, la troisième, ça part toujours à la faute et c'est frustrant en fait. C'est ça qui est frustrant parce que quand on voit le niveau de la Talenta ce soir, pour moi, il y a largement la place.
Et puis, hormis ce but où tu fais une grosse erreur de placement entre le rôle de Kondogbia, de Murillo, Mbemba qui couvre. Hormis ce but-là, il y a rien, quoi. Il y a rien. Tu ne concèdes pas.
Est-ce que on peut considérer que l'OM peut mieux faire? Je sais pas. Est-ce qu'on peut considérer que l'Atalanta peut mieux faire? Je pense que oui.
Oui, ça oui.
Je pense que l'Atalanta peut mieux faire pour l'OM. J'ai un doute parce que là, comme on les a vus ce soir, c'est comme on les a vus contre Benfica, c'est comme on les a vus contre Lens en championnat dans le dernier match. C'est l'OM est à un niveau constant en ce moment. Ils donnent tout ce qu'ils ont à donner et je ne sais pas s'ils peuvent faire beaucoup mieux que ce soir.
Ouais, mais en Coupe d'Europe, on a quand même cette normalement ce truc en plus.
Vous le montrez tout le temps. Moi, ce que je dis, c'est que l'Atalanta peut certainement faire mieux. L'OM, je pense, donne le max à chaque match.
Bah, je pense qu'ils peuvent avoir un Aubameyang plus clinique. Ça déjà,
ils peuvent avoir un Aubameyang qui normalement met un but dans un match, quoi.
À chaque fois, le premier cas, c'est qu'on se remet toujours sur le fait qu'Aubameyang va concrétiser sa seule occasion qu'il va avoir ou une des deux qu'il va avoir. Alors c'est sûr que quand il en met pas, ben forcément.
Ça va être un match pour lui, avec l'ambiance, Clément, là, parce que c'était un plein ce soir avec un record de
L'ambiance était folle, honnêtement. J'ai fait aussi les matchs de Coupe d'Europe contre les Brighton, contre tout ça. Honnêtement, en fait, pour moi, c'est toujours du même acabit. Le Marseille en Coupe d'Europe, on est toujours à fond. L'ambiance était folle, comme les gros matchs. Je suis pas étonné de l'ambiance qu'il y a eu, c'était exceptionnel, mais comme à chaque fois que je vais à Marseille, moi j'ai pas la chance d'y aller tout le temps, parce que ce soir je ferme le resto pour y aller exprès, parce que ça me touche de faire des demi-finales de Coupe d'Europe, on n'en fait pas souvent, mais c'est une ambiance qui fait qu'à Marseille, honnêtement, contre Lens, c'était pareil, contre les autres grosses équipes, Marseille, on répond quand même.
Bon, ce sera pas ça à Bergame, hein, c'est un tout petit stade qui
Sont en travaux, exactement, ouais. C'est pour ça que c'est le retour petit, hein. Me fait un peu plus peur que là, au moins ils avaient un peu le 12e homme avec eux ce soir, quand on pousse avec eux, c'est sûr que... Alors, on a envie de le pousser, nous, le ballon dans les buts, mais bon, mais on peut pas tout faire. Hein.
C'est quoi ton resto?
Petit resto dans le Luberon, pas très loin de là où habite Dimeco d'ailleurs.
Très bien, bah écoute, bon retour à la maison. Salut Clément.
Merci beaucoup.
Ciao. Bonne soirée,
les gars. Merci, bye bye. Johan Crochet nous rejoint. Salut Johan.
Bonsoir messieurs.
Ah, c'était soirée italienne ce soir.
Bon, l'Atalanta peut mieux faire.
Salut Johan. Oui, sans problème, oui. Oui, c'est loin d'être son meilleur match, mis en difficulté d'ailleurs sur un point essentiel que j'avais souligné un peu toute la semaine, c'est l'intensité. La force dans les duels, j'ai vu beaucoup de bonnes choses du côté de l'OM. J'ai vu assez peu d'équipes en Serie A mettre autant en difficulté l'Atalanta sur ce plan précis-là.
Mais est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment été à fond sur ce plan-là? Moi, je les ai trouvés pas comme d'habitude en termes d'intensité, comme s'ils se contentaient un petit peu du minimum.
Non, je pense pas. Non, je pense qu'ils ont vraiment été gênés par ce qu'a fait l'OM, ce qu'a proposé l'OM.
Il y a la blessure de Kolasinac qui change quand même pas mal de choses, non?
Qui change beaucoup de choses.
Parce qu'en fait, t'as De Roon qui...
Ouais, c'est pas sûr qu'il revienne dans une semaine. Hein.
Ouais. Non, il sera pas là. Il sera pas là. Martin De Roon, adapté en tant que défenseur central.
Ouais, c'est très compliqué, ouais.
C'est très très compliqué, non simplement sur l'aspect purement de défenseur, mais simplement sur la vitesse en fait. Voilà, il y avait un mismatch clair entre tous les joueurs de l'OM sur ce côté-là et Doron, et donc peut-être qu'il faudra trouver une autre option la semaine prochaine, parce que tu ne pourras pas te présenter avec la même ligne défensive côté gauche où t'as été.
Et pas non plus avec ce rythme-là. Hein. Si moi, c'est pour ça que je te posais la question. Si tu me dis qu'ils peuvent pas faire beaucoup mieux ou qu'ils ont été bien pris, bah il y a pas de raison qu'on les imagine très au-dessus. Déjà, on les imaginait très au-dessus ce soir et que ça ne s'est pas vu. C'est presque rassurant pour les Marseillais qui nous entendent ce que tu dis là.
Oui. Après, moi, je les ai vus faire bien mieux aussi l'Atalanta. Hein, attention, hein. Mais je pense que le plan de l'OM a été très très intéressant ce soir. Je ne sais pas s'ils réussiront à le faire à Bergame également.
Ah, de toute façon, ils vont faire en mode bus et contre-attaque. Hein.
Mais l'Atalanta, ils sont sixième.
Et ça, ils aiment pas ça.
Ils sont pas premiers non plus. Hein.
Ils aiment pas ça, le côté bus contre-attaque. Hein.
Ouais, tous les longs ballons sur Aubameyang, les mismatchs en termes de vitesse et de rapidité d'exécution, ils ont pris très très cher là-dessus. Ce qui a été problématique aussi, je trouve, c'est que sur les transitions, le milieu de terrain était complètement vide. Ça m'a beaucoup gêné parce que il y avait des trous énormes, plein axe, des choses que normalement tu ne fais jamais, absolument jamais. À la limite, tu acceptes qu'il y ait des joueurs seuls sur les côtés parce que tu les éloignes un peu du but et que c'est moins dangereux, mais plein axe, j'ai vu des contre-attaques partir de plein axe avec un trou de 40 mètres. Bon, ça m'a gêné un petit peu plus, donc il y aura sans doute des choses à revoir. D'ailleurs, Gasperini disait, il faudra pas qu'on leur laisse des transitions comme on leur a laissé aujourd'hui, enfin ce soir. Donc, moi, je m'attendais pas à une équipe qui surclasse l'OM, etc. L'Atalanta a aussi eu des matchs difficiles en championnat. Je répète, ils sont sixième, donc c'est qu'il y a une raison aussi.
Ils jouent qui ce week-end?
Salerne est à
lundi.
Ils jouent lundi à Salerne, qui est déjà relégué.
Ah, d'accord.
Donc, je pense que ça peut tourner un peu. Mais il faut regarder aussi l'Atalanta en championnat. Ils vont regarder beaucoup la Roma, et la Roma, ils sont sur les rotules. Donc, eux, ils auront peut-être un peu plus de marge.
Et pourquoi ils sortent Scamacca aussitôt?
Aucune idée. Gasperini, à la fin du match, a expliqué, quand on lui a dit encore un beau but de Scamacca, et il a dit ouais, mais je m'attendais à plus de lui.
Il a bien été bloqué par Balerdi, mais
il défendait, il était toujours présent, il déviait tous les ballons qu'on mettait sur lui.
C'est pour ça que
j'aurais bien aimé le voir avec Lookman.
Ouais, moi aussi, ouais. De Ketelaar a été vraiment dedans.
Ouais. Même Pazalić, l'entrée de Pazalić.
Ouais, compliqué aussi. Non, mais c'est pour ça, bien sûr qu'il y a une marge de progression, mais une marge de performance côté Atalanta. Mais ne surtout pas négliger, d'ailleurs Gasperini le soulignait en conférence de presse d'après-match, ne surtout pas négliger ce qu'a très bien fait l'OM ce soir dans le plan, mais ça permettra aussi à l'Atalanta de s'ajuster au retour.
Et je précise que personne n'a dit que l'Atalanta avait joué à l'économie ce soir. Je sais pas comment des oreilles et des cerveaux.
Non, avec l'auditeur tout à l'heure, on a dit qu'ils ont géré en deuxième mi-temps. Moi, j'ai dit que j'étais pas sûr de ça.
T'as aussi eu peut-être l'impression d'une gestion, tout simplement parce qu'ils voulaient tenir plus le ballon et s'exposer beaucoup moins en transition. Donc ça, t'as peut-être donné cette impression de vouloir gérer un peu plus, ou de parfois le bloc un tout petit peu plus bas pour gérer un peu plus, mais c'était simplement, je pense, pour offrir beaucoup moins de transitions à l'OM, parce qu'on a eu, sur une séquence de 15-20 minutes, 3-4 transitions avec très gros surnombre offensif marseillais. D'ailleurs, sincèrement, je pense que Gasset peut tirer quelques oreilles ce soir côté OM, parce qu'il y a plein de choses qui sont bien faites. Mais alors, les choix aux abords de la surface et toutes les solutions personnelles plutôt que des solutions beaucoup plus collectives.
C'est le gros problème.
Ça, l'OM, c'est le problème depuis le début, ça. Il y a des joueurs qui, effectivement, font pas les bons choix. Ça, on le note tout le temps.
C'est le gros problème de l'OM.
Reste avec nous parce qu'on va parler des autres clubs italiens et on va faire une évaluation ensemble dans quelques instants. Johan, après ce match, on se retrouve tout de suite dans l'after. On entendra notamment Jean-Louis Gasset dans quelques minutes.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h34, Daniel Riolo est là, tout comme Walid Acharchour, tout comme Johan Crochet, notre spécialiste du foot italien, qui nous dira un mot de la Roma dans quelques minutes.
Si vous voulez, j'ai une petite déclaration sympa de Gasperini en conférence de presse sur le Vélodrome.
Ah, vas-y.
Qui lui a beaucoup plu, c'est un stade merveilleux pour ce qu'il transmet à l'équipe sur le terrain. Il a évidemment donné beaucoup à cette équipe. Ça veut dire que nous aussi, on a été très courageux et très bons, parce que malgré les moments de souffrance, c'était pas facile de jouer dans cette ambiance avec cette personnalité.
Écoutez, Jean-Louis Gasset, c'était il y a quelques minutes avec Florent Germain.
Quand vous voyez qu'ils ont gagné 3-0 à Liverpool, quand on prend le premier but, il y a un petit truc qui vous traverse, parce que vous dites ils sont impressionnants, mais là les joueurs sont passés encore dessus pour aller égaliser, et comme ils disent, les regarder dans les yeux.
Voilà. Donc 1-0, il reconnaît quand même qu'il n'était pas hyper serein.
Non, parce que Gasset, vraiment, il se comporte en plus sans... Il n'a pas honte et il est très honnête et tout. Souvent, il accompagne cette équipe, quoi. Il est là, il accompagne l'équipe. Voilà. Il les aide plutôt mentalement, mais il n'a pas un discours de coach où tu sens qu'il met en place des trucs.
Oui,
c'est
sûr qu'il n'a pas de Gasset dans le jeu.
Il accompagne l'équipe, mais écoute, il le fait plutôt bien. C'est une équipe qui a, on le dit souvent, beaucoup de personnalité depuis février, quoi.
Il y a beaucoup d'équipes en Europe et il y a certains coachs en Europe qui ont le même discours. Hein.
Oui, bien sûr.
On a vu cette semaine.
Hein. Pas dit que c'était négatif, forcément.
À l'évaluation, Frédéric est avec nous. Frédéric, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. Et alors, moi, je vais vous parler. J'ai trois petites choses à dire, dont une.
Oui, vas-y.
Un petit coup de gueule envers Eric Dimeco.
Ah, pourquoi? Alors,
je vous explique pourquoi. Ça fait depuis le début de l'année qu'il se demandait comment on peut faire confiance à un joueur comme Balerdi.
Il a oublié une chose. Eric, il a dit ça plusieurs.
Oui. Non, mais c'est critiqué, c'était limite que c'était un joueur de PH, quoi. Et comme je disais, moi, quand il est arrivé à l'OM, il avait 19 ans. Il a 22 ans parce que c'est un jeune joueur encore. Moi, je vous garantis que vous verrez qu'avec la progression qu'il a, il finira dans un grand club. Mais c'est pas le problème.
Ce serait bien qu'il reste à l'OM, du coup, parce qu'effectivement, c'est en train de devenir un très grand joueur.
Mais c'est ce que je dis. Mais on aura du mal à le garder. Mais je lui rappelle à Eric qu'il avait dit qu'un certain monsieur Azpilicueta, que si ça devenait un bon défenseur, il mangeait un rat. Et il peut manger un deuxième.
Ah, je vois que tu es un fidèle de l'after, Frédéric.
Oui, ça fait des années que je
Je te propose d'appeler l'après-midi pour lui parler, Eric, parce que là, il ne peut pas te répondre et nous, on ne peut
pas répondre. Par contre, Balerdi, il a 25 ans, Balerdi.
Ah oui, maintenant, il a 25 ans, je suis d'accord. Par contre, ce que je vais vous dire une chose, c'est que sur l'équipe de l'OM, quand j'écoutais tout à l'heure, on parlait de technique. C'est une équipe qui manque de technique. Ça, c'est une évidence, mais vous prenez les attaquants, vous prenez un joueur comme Ndiaye, et regardez-le jouer.
Il regarde ses pieds.
Il ne regarde jamais le placement des joueurs avec qui il joue. Jamais. Alors, il fait des crochets, il fait des fois des différences, mais il utilise mal son
ballon. Là, t'es d'accord avec Eric qui, pendant le match, criait à Ndiaye, il lève la tête.
Mais oui,
mais c'est fou parce que c'est frustrant parce que tu sens que sur ses prises de balle, il a quelque chose.
Sûr,
sur sa rentrée, il fait quelques différences, mais c'est vrai qu'à la fin, les choix, c'est.
Il y a une chose, c'est que où je suis pas d'accord trop avec au niveau du match de Lens. Au match de Lens, on a terminé le match, mais. Oui, il y avait des crampes, comme le dernier match de Coupe d'Europe.
Mais c'est ce qu'on disait, c'est l'OM donne tout en ce moment. L'OM est taquet à tous les matchs. C'est pour ça que.
Ils ont mieux fini ce soir.
Voilà, je l'ai moins senti.
C'est pour ça que là, il y a une semaine de repos. Oui. Et autant on peut imaginer que l'Atalanta offre une autre prestation, mais l'OM, il faudra compter encore avec eux pour être au taquet.
Et je vais quand même te dire autre chose, c'est qu'il y a des joueurs qui ont été blessés assez longtemps. Un type comme ça. Il apporte quand même de la profondeur, même s'il est maladroit, s'il fait pas tout le temps les bons choix, mais il apporte quand même de la profondeur.
Ah, moi, je t'avoue, personnellement, je vois pas trop ce qu'il apporte, mais bon, écoute.
Il apporte que
sur ses cours, sur son profil.
Oui, c'est ça, sur la profondeur. Oui,
après tout, les mecs jouent avec pas mal d'humilité, mine de rien. J'ai l'impression que tout le monde est assez conscient des limites des uns des autres. Et comme on l'a dit mille fois, il y a trois mecs qui sont au-dessus. Balerdi, Veretout, Aubameyang. Et le reste,
Jack Klaus.
Oui, mais Klaus, ce soir,
il démarre bien après, c'est un peu compliqué.
Mais attends, c'est des joueurs qui vont être frais parce que ça fait un mois qu'ils ont arrêté.
Mais Klaus, en temps normal, oui, c'est une autre touche technique dans cette équipe, bien sûr.
Exactement.
Donc, normalement, les deux autres qui devraient être beaucoup plus réguliers, c'est Harit et Ndiaye. Qui, globalement, sont décevants.
Dobia aussi.
Harit, je connais pas un joueur qui s'est tapé les croisés qui, dans la première année, revienne à leur niveau.
Oui, mais alors le problème c'est choix, que ça doit choix. Être physique, ouais. mais les choix, ouais. c'est la tête, ouais. c'est pas le genou, tu vois.
Ouais. Je sais, mais il manque de technique dans cette équipe, c'est tout, c'est uniquement ça. Il y aurait un ou deux joueurs qui ont un toucher de balle supérieur et il y aurait vraiment.
C'est ce qui coûte le plus cher.
Après, ça manque de technique. Normal, le Luis Enrique fait des choses quand même étonnantes avec le ballon. Quentin Merlin, pour moi, avec le ballon, c'est un ancien milieu de terrain. Je trouve qu'il a quelque chose. Jonathan Klaus, Ndiaye, Harit, Kondogbia, normalement, doit faire bien mieux avec le ballon. Et c'est une grosse déception.
C'est une vraie déception par rapport au statut avec lequel il arrive. Oui, c'est décevant.
Aubameyang, techniquement, il est capable de faire de grandes choses. Balerdi, sa relance est souvent très très propre. Donc normalement,
alors,
t'as des joueurs.
Parce que Frédéric nous a lancé le débat, c'était dans vos trois points, les gars. Frédéric nous dit, il va finir dans un grand club.
Oui, c'est vrai, on le dit depuis combien de temps, Gilbert? Ça peut partir à une somme qui l'OM pourra pas refuser.
Combien de débats on a fait avec Kevin où je dis moi, il y a pas mal d'équipes en Europe et notamment en Italie qui regardent Balerdi. Et moi, je pense que Balerdi, dans une équipe comme la Juve actuellement, ou la AC Milan, ou l'Atletico, il joue tous les jours, je l'ai déjà dit.
Moi, Frédéric a raison. Au début, Balerdi, très jeune à l'OM, c'est vrai qu'il
Il a progressé.
Il a le droit d'avoir progressé aussi. Il ne faut pas rester toujours sur les premières impressions.
Après, il y en a qui s'enferment dans des combats aussi.
Moi, j'ai jamais été contre ce joueur-là. Ça ne m'empêchait pas de voir qu'effectivement, parfois, il pouvait avoir des absences. Néanmoins.
Contre Brest, par exemple, c'est vrai qu'il fait un truc où tu dis, mais c'est pas possible.
Ça va. Mais qui fait pas d'erreur?
C'est qu'à chaque fois que dans les matchs il était mauvais, l'OM en entier était mauvais. Il n'était pas soutenu parce qu'à côté de lui, tu ne pouvais pas dire oh, les autres ils sont extraordinaires autour de lui et lui il n'est pas bon. C'était pas le chat noir, tu vois, c'était pas la brebis galeuse de l'équipe. Quand l'OM allait pas, il allait moins. Là maintenant, il a non seulement progressé, mais il est même au-dessus des autres. C'est ça qui fait que c'est un leader, c'est devenu un patron comme Veretout et comme Veretout. Excusez-moi, parenthèse là-dessus, c'est un joueur que j'ai toujours défendu. J'adorais Veretout, Rongier, la paire et tout. Veretout aujourd'hui, tous les jours il joue au milieu du PSG. Je vous l'assure, à la place de Fabien Ruiz.
Il y a beaucoup de joueurs qui jouent à la place de Fabien Ruiz, je pense. Ouais.
Ok.
Ouais.
Bon, j'ai fait le lien.
Ouais, oui, non, mais.
C'est deux clubs.
Et Mbemba, il joue pas à la place de Beraldo.
Enfin, après, ce jeu-là, encore une fois, c'est. Non, mais moi, enfin, je dis, Fabien Ruiz, je pense que tu peux mettre beaucoup
du milieu, parce que le milieu hier, de ce que tu as vu du milieu, un mec comme Veretout, faut que l'OM se rende compte qu'ils ont un très bon joueur.
Mais pour moi, par exemple, si on doit faire une comparaison, Balerdi, aujourd'hui, c'est meilleur que Beraldo. Mais oui, Balerdi, quand on voit le match qu'il fait contre Benfica, notamment il y a deux semaines, là encore une fois ce soir où Scamacca, on parle de Scamacca, ça fait deux semaines. Attention, la menace Scamacca, il l'a pris en duel dans sa palette globale, c'est-à-dire relance.
Scamacca fait un bon match, il a mis un but, mais
quand il s'exile sur Murillo, à chaque fois dès qu'il y a eu un duel avec Balerdi, il l'a très très bien tenu. Et je trouve qu'encore une fois, dans l'intelligence de jeu, dans ce qu'on aime chez les défenseurs modernes, Balerdi a tout ça aujourd'hui. Après, bien évidemment qu'il a progressé, qu'il a déjà fait des grosses erreurs. Mais moi, je disais, parce qu'on en parlait comme d'une pompe à vélo. Je disais, attends, à un moment donné, quand tu as Marcelino, Sampaoli, Igor Tudor,
il jouait tout le
temps. T'as 4-5 coachs différents qui, tous les gens qui en parlaient n'en disaient que du bien. Igor Tudor, il a été défenseur quand même à la Juventus. T'as quand même un bon défenseur. Il te parle de ses qualités dès le troisième ou le quatrième match. C'est qu'à un moment donné, ce type-là, il a quelque chose. Moi, je te le dis, en Italie, ils sont chauds sur lui. Et je pense que ce qu'il a fait contre l'Atalanta ce soir.
Les grands défenseurs, ça court pas les rues.
Mais aujourd'hui, il y a Disasi et Badiachil qui jouent à Chelsea, qui ont coûté 45 millions d'euros.
4 pieds carrés dans la charnière centrale de Chelsea.
Non, mais tu dis, on peut tous les faire, les centraux en Europe.
Tottenham 2-0, j'ai pas de.
Non, mais on peut tous les faire, les centraux en Europe. Et j'aimerais bien avoir l'avis de Johan
Crochet. Il n'y a pas de crack.
J'aimerais bien avoir l'avis de Johan Crochet. Moi, je serais pas surpris que demain, que Thiago Motta, il prenne la Juve ou un autre gros club en Italie, qu'il aille chercher ce type de joueur.
Ah, bonne question sur le profil, je sais pas. Il voudra. S'il va à la Juve, il a quelques défenseurs centraux intéressants et je pense qu'il cherchera beaucoup un défenseur relanceur. Alors, Balerdi a des qualités, mais je pense qu'il peut les trouver aussi ailleurs. Mais oui, c'est un profil qui est intéressant, qui a bien progressé. Moi, c'est un défenseur que, globalement, j'ai toujours aimé, même s'il y avait des sautes de concentration. Mais en fait, quand tu vois un joueur qui est bon pendant 89 minutes et qui fait une grosse boulette, tu te dis. Le jour où il arrête ses boulettes qui peuvent être corrigées assez facilement sur des choses de concentration, de mental, de parfois un peu technique également, tu te dis ça peut devenir simplement un très bon défenseur. Et je pense qu'il est dans cette phase-là où tout ce qu'il faisait de bon est maintenant est validé et les petites erreurs, il en fait beaucoup moins. Donc c'est un profil qui est très intéressant. L'Ajax était très chaude sur Balerdi aussi l'été dernier.
Il soigne même ses relances maintenant.
Ah oui, non, mais il a toujours eu une très très belle. Ça reste un beau défenseur, Balerdi, à avoir joué. Mais c'est vrai qu'il avait beaucoup de sauts de concentration, mais ça mériterait un débat plus large. Il y a beaucoup de défenseurs qui aujourd'hui en Europe au très très haut niveau ont des sauts de concentration. Un joueur comme Upamecano par exemple qui est au Bayern est capable de faire des gros matchs et d'avoir des sauts de concentration. Konaté la même chose.
Mais c'est aussi parce que le jeu va de plus en plus vite. C'est de plus en plus difficile aussi de gérer
Kim Min-jae avec le Bayern.
Et c'est fait endormir deux fois.
Alors que le mec, il était énorme au Napoli l'année dernière. Il y a beaucoup de défenseurs qui aujourd'hui font des erreurs. Hein. C'est un jeu d'erreurs, le football.
Merci Frédéric, au 32-16.
Et de plus en plus provoqué, parce que les équipes jouent de façon plus offensive. Oui, Johan. Les pressings sont plus intenses.
Et puis on demande beaucoup de choses aux défenseurs.
Bien sûr.
Voilà, c'était le tour de Frédéric, il est plus passé à l'antenne, c'était beau. Johan, la Roma peut-elle renverser la vapeur à Leverkusen? On n'y croit pas.
Non, personne.
Absolument pas. Non, il y a une classe, deux classes, trois classes, quatre classes que vous voulez d'écart entre les deux équipes.
Quelle équipe,
moi, ça me fait un peu rigoler parce que j'entendais ce soir les commentaires de Sky, donc diffuseur italien. Ouais, l'erreur de Karsdorp, ça fait basculer le match. Ça n'a rien fait basculer du tout. Il n'y a pas eu de match. Ils étaient tellement supérieurs, le Bayer Leverkusen, à la Roma. Alors certes, l'erreur de Karsdorp qui est monstrueuse, ça les a emmenés dans la bonne direction sur le tableau d'affichage.
Ils ont un bon passage quand même en première mi-temps, non, Johan?
Ça dure 20 minutes, mais c'est pas suffisant parce que même pendant ces 20 minutes-là, tu te crées une vraie occasion qui est la tête de Lukaku sur la barre.
Oui.
Et d'ailleurs, tes trois grosses occasions dans le match, c'est sur trois ballons aériens. Ce qui veut aussi dire que, en dehors de ces, alors c'est pas que des phases arrêtées, mais en tout cas, en dehors du jeu aérien, tu as été incapable de te créer des grosses occasions. Parce que non seulement le Bayer Leverkusen, ce qu'on souligne souvent, est une très belle équipe, ballon au pied, etc., mais en transition, c'est démentiel.
Avec Frimpong et Grimaldo.
Mais Frimpong, c'est c'est une solution très différente par rapport à ce que fait le Bayer Leverkusen, mais il y a cette variété de profils, il y a Tella qui est rentré aussi,
ouais, ça fait très
toute
mal,
cette Boniface qui est resté sur le banc, ils ont une variété de profils qui leur permet d'être aussi forts en phase de possession, en jeu de position, que en transition, qui fait que franchement, bon courage pour les quelques équipes qui vont encore affronter le Bayer Leverkusen cette saison avant de voir ce que ça donnera la saison prochaine.
Et encore, Frimpong, il a deux occasions énormes, notamment à la fin de la première mi-temps, qu'il doit mieux faire. Hein.
Ouais, puis même une en début de match aussi où Svilar sort bien sur lui et Frimpong en lui bouchant l'angle et Frimpong tire à côté. Mais non, c'était très compliqué pour la Roma. Il y a aussi une débauche d'énergie qui a été faite pour remonter au classement. Quand De Rossi arrive, ils sont 9e, là ils sont 5e. Et tu passes Brighton, tu passes le Milan, là t'es face aux invincibles. Et il y a pas à rougir d'avoir pris une fessée cul-nue ce soir à l'Olympico, et tu vas aller au match retour, sachant que Abraham a l'occasion pour mettre un but à 2 mètres du but, but ouvert, pas de gardien, tête au-dessus, c'est quand même assez incroyable. Et avec un seul but de différence, tu pouvais avoir un peu d'espoir ou de te dire s'il y a miracle.
Ouais, machin, il n'y avait pas grand-chose quoi qu'il en soit. Hein.
Là, il faut double miracle, il faut tout ce que vous voulez, il faut aller à Santa Maggiore à Rome pour mettre quelques cierges.
Ouais, même
il faut
ça va pas
tous
suffire.
Les trèfles à quatre feuilles, les fers à chevaux, les pattes de lapin. Enfin, faut tout mettre là. Hein, c'est.
Et puis il avait décidé, Xabi Alonso, de jouer sans neuf ce soir.
Ouais,
ni Boniface, ni Chic, ni Borja Iglesias.
Et ça a été un vrai problème pour notamment Smalling, qui est très très fort quand il y a un neuf à contrôler. Un peu le profil d'Acerbi, ces vieux défenseurs qui sont roublards, qui ont du métier, qui dans les duels sont très intéressants, qui savent anticiper, etc. Mais alors dès qu'ils ont une attaque légère, une attaque mobile, sans référence réelle, ils sont en très très grande difficulté. Et d'ailleurs, l'espace qu'il y avait entre les lignes, quasiment dès le début du match, hein, côté Roma, avec des joueurs de Leverkusen qui venaient se mettre entre les lignes sans arrêt pour proposer des solutions. Franchement, en deuxième mi-temps, moi, il y avait des impressions de flipper dans le jeu du Bayer Leverkusen. C'était une touche, ça partait dans tous les sens. Et ça a été vraiment un superbe match de Leverkusen.
Une des plus belles équipes en Europe cette année. Hein.
La plus belle pour moi. Mmh.
La plus belle, sans doute. Mmh. Et
donc, ils aillent au bout de leur histoire, champion d'Allemagne, l'Europa League, ce serait quand même assez énorme.
Ils font triplé, il y a la Pokal aussi.
Ouais.
Tu dis la Pokal.
Ouais, la DFL.
La Pokal.
Ouais, non,
la Copa, tu dis pas la Copa, toi?
Non.
La
Coupe de France.
Non, mais la Copa, non,
c'est la Coupe d'Allemagne.
Non, mais la Copa.
La Copa Italia.
Tu veux dire pas la Copa? Ou même la.
On dit la Coupe d'Espagne.
La Coupe d'Espagne, la Coupe d'Italie, la Coupe d'Allemagne.
En Espagne, c'est la Coupe du Roi.
D'accord.
En Italie, c'est la Copa Italia.
Ok. D'accord. Très
bon. Merci, Johan.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Mais c'est intéressant, ça veut dire que Xabi Alonso, il fait des inventions dans les gros matchs.
Oui, mais quand ça marche, c'est bien.
Ouais, c'est bien quand ça marche.
Quand ça marche,
non, mais
le problème, c'est quand ça marche pas.
Ouais, le problème, c'est quand ça marche.
Allez, à tout de suite, les gars, justement, à propos
et
d'invention.
Quand tu cherches et que tu trouves pas.
On va écouter Christophe Gilliard qui parle de Luis Enrique. Des nouvelles de Reims également
au. Vrai, il suffit pas d'avoir un passeport
programme
espagnol pour être un génie. Hein,
ouais,
tu sais.
Il a pas mis le numéro 9.
Gardez-en sous le pied.
Pas du tout, il y a la Hollande.
Gardez-en aussi pour le spectacle de l'After le 10 octobre à la salle Playel.
Ah oui, c'est énorme ça. Ça va terminer au Stade de France cette histoire en fait.
Tu crois, Walid?
C'est quoi, il y a un spectacle là, par contre, il faut pousser le truc là.
Mais Stade de
là,
France,
on va faire qu'une émission.
Dans une salle du Stade de France, tu veux dire, parce que dans une salle du Stade de France.
Non, c'est le. Là, faut travailler quelque chose.
On va grandir, monsieur.
Ah, là, il y a quelque chose à faire.
On va
d'abord faire le Stade de la Méno.
Ouais.
Tu permets, avant le Stade de France.
Ouais. Ouais, pourquoi pas.
Ah bon, en tout cas, les places pour le spectacle de l'After sont en vente. Salle Playel, 11 octobre. N'hésitez pas à vous renseigner et à vous les procurer. Dans un instant donc, le reste de l'actu du jour avec des nouvelles également de Lucas Hernandez.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
N'oubliez pas la libre antenne qui arrive dans moins de 10 minutes jusqu'à 1h du matin avec Thibaut Jean-Grand, Doucet Moussaïev, toute l'équipe. Vous pourrez continuer le débat autour du match de l'OM, évidemment. Lucas Hernandez, comme suspecté hier soir, souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Donc voilà,
ouais, deuxième fois. Il en reprend pour 6 mois minimum. Donc en fait, on est. Oui,
c'est deuxième fois dans sa carrière.
Au mieux, c'est janvier de l'année prochaine.
Oh.
C'est un énorme coup dur.
Ouais, exactement.
Énorme, très, très gros énorme coup dur. Et encore, comme c'est pas la première fois, ça se trouve il reviendra
coup dur
même
pour
pas.
Le PSG, coup dur
en fait,
pour
il
le...
reviendra même pas à son niveau. C'est malheureux
sur
d'être obligé de faire ça,
deux fois des croisés.
Mais deux fois, tu reviens pas en fait.
On parle du PSG, mais aussi l'équipe de France. Hein. Parce que l'équipe de France, entre Mike Maignan qui se blesse à chaque fois, qui est pas dingue avec l'AC Milan, entre Konaté qui est remplaçant à Liverpool une fois sur deux, ou pas Mécano remplaçant, ça commence à faire beaucoup cette histoire. Hein. Lucas Hernandez blessé.
Ah bah écoute, peut-être que Chardonnay a ses chances pour l'Euro.
Ça doit se tenter. Dans les plans.
Écoutez Christophe Dugarry, c'était tout à l'heure dans Rotten sans flamme. Alors Christophe avait bien préparé son intervention, il avait écrit un texte et tout, vous retrouvez l'intégralité sur rmcsport.fr.
Ah oui, carrément.
Là on vous passe un extrait, oui parce qu'il voulait qu'on le comprenne bien je crois, Christophe. Là on vous passe juste un extrait, vous allez vite comprendre, il parle de certains choix de Luis Enrique, notamment sur les sur Dembélé et Emre Can, écoutez.
À quel moment, quand tu joues face à Dortmund, tu te dis... tu as la pensée de te dire, pour contrarier le Dortmund actuel, il faut que je prenne en individuel Emre Can. Le mec qui se dit, je joue contre Dortmund, et le monstre de Emre Can, il faut le prendre en individuel. Et tu sais ce que je vais faire? Pire que ça. Je vais sortir mon meilleur joueur, un de mes meilleurs joueurs actuels de droite, pour lui dire, tu vas prendre en individuel Emre Can. Dembélé. Extraordinaire. Le mec, je me dis, mais c'est un génie. Je me dis, mais s'il te plaît, mais que quelqu'un m'explique comment il a pensé à faire ça. Je n'arrive pas à comprendre depuis hier soir. Alors écoute, Jérôme, j'attends une réponse tout en me disant, c'est pas grave, je suis un imbécile, je le sais, ce matin je vais lire l'analyse d'après-match et je vais écouter comment va nous expliquer Luis Enrique les explications. Bon.
Mais il l'a pas fait.
Et puis écoute, rien du tout. Aucun journaliste ne lui a posé la question.
Mais tu sais, il répond pas. Donc...
Bon, c'est qu'une partie hein, de la longue intervention de Christophe Dugarry.
Non, mais là, c'est dur. C'est le seul entraîneur au monde qui ne répond pas. C'est dur d'être d'accord avec Dugarry là-dessus. C'est un
moi,
vrai problème.
Moi, souvent, je défends Luis Enrique. Je trouve Daniel parfois très, très dur. Autant hier. Entre sa gestion, la rentrée de Colomboigny, le fait de ne pas mettre Ramos une minute dans cette rencontre alors qu'il était sur une dynamique très importante, et puis le positionnement de Dembélé sur la première mi-temps, comme il vient de le dire sur Emre Can, ça va, c'est pas Pirlo 2012, hein, Emre Can, hein. Ça va, on n'est pas
même Pirlo 2015.
Non mais ouais, ou Pirlo. Non mais ça va. Mais à un moment donné, avec tout ce que je dis de bien sur Luis Enrique, j'aurais bien aimé avoir un coach qui soit sûr de ses forces et qui joue avec la volonté d'impacter l'équipe adverse. Mais Duga était très très bon.
Tu veux juste me faire plaisir et dire un truc parce que je suis sûr que tu vas le dire. T'aimerais pas qu'il explique les choses.
Mais parfois il explique ça. Plus que ce qu'on parfois. Parfois il y a des.
Mais t'as son numéro.
Non.
Il t'explique.
Notamment, il y a une interview au club PSG TV en janvier où il dit beaucoup de choses. Où c'est passé inaperçu.
Mais non.
Après oui, ça t'embête pas. C'est Luis Enrique. Mais il y a beaucoup de coachs qui sont comme ça.
Non. Qui d'autre?
Comment il s'appelle? Van Gaal a beaucoup de mépris envers les journalistes.
Je te parle pas de ça. Non mais il peut mépriser. Non, expliquer. Moi, Van Gaal, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il te dit je te méprise, mais il discute avec toi.
D'accord.
Et
pourtant tu l'as mis, Van Gaal.
Non mais il m'explique tout.
Ouais d'accord.
Il y a pas de problème à partir du moment où il explique.
Oui mais par contre ton avis c'est de la merde.
Mais non mais moi
ton avis par contre lui pour lui ton avis c'est de la merde.
Mais pas forcément une fois que le dialogue
on a vu combien de conférences de presse
où une fois que il discute ouais, il explique les choses.
Ouais, bon. Hein, moi ce qui m'importe c'est surtout le choix, surtout le choix être... les explications. Pardon, on a compris
cette semaine, quand cette semaine il dit la presse ne comprend presque rien au foot.
Ouais. Il est dans son rôle, c'est une punchline.
Mais pourquoi il a un rôle?
C'est comme ça. T'as un rôle toi aussi.
Moi j'ai pas de rôle.
Non mais en gros voilà, tu vas rigoler, tu vas faire la comparable. Mais chacun
mais comme j'ai dit à un auditeur hier, Walid, en fait moi à côté de lui je ne suis rien. Arrêtez de vous monter le cerveau. Arrêtez de dire de la merde.
Ah d'accord.
Moi je suis un journaliste, je donne mon avis.
Ouais d'accord.
Moi en toute sincérité depuis plus de 15 ans je mens pas, je joue pas de rôle, je fais rien. Lui c'est l'entraîneur du PSG. Ça a rien à voir.
Mais
avec
hier en conférence de presse, il a expliqué que Dembélé voulait bloquer Emre Can. Il te l'a dit en conférence de presse. Sinon, c'est sorti de quoi en fait? C'est Dugarry qui l'a.
Sa punchline.
Non mais tu vas pas me faire défendre Walid, alors que Walid, je t'ai dit que je suis d'accord Walid. Avec vous.
Cette semaine, il te sort cette énormité qui est la presse ne comprend presque rien. Donc moi, je suis content, je me mets dans le presque. Il se trouve que
il a eu raison sur Dortmund.
Donc il n'y a que les gens du foot qui connaissent le foot, n'est-ce pas?
Ouais.
Et il se trouve que pour lui répondre, 24 heures après sont sortis les nominés de l'UNFP, qui ne sont que les votes des entraîneurs et des joueurs.
Oui.
Quand tu vois la merde qui est sortie.
Je me dis
qu'on n'aurait pas fait pire.
On est d'accord, mais on s'en fout de ça en vrai, Daniel. C'est pas ça le plus important.
Allez, c'est fini. Dimanche,
au passage, Duga était aussi très très bon sur Kylian Mbappé. Très très bon. Quand j'ai entendu Daniel hier très sympa sur Kylian, parce qu'il a mis un poteau et que c'était le meilleur.
Moi, j'ai pas été sympa, j'ai dit qu'il était dans les trois meilleurs de l'équipe. C'est tout.
Et on doit se satisfaire de son match d'hier.
Est-ce que j'ai dit que je m'en satisfais?
Oui, on va continuer le débat ensemble dimanche.
Derrière
pourquoi? Parce
le constat,
que
je te dis pas que je
dimanche,
m'en
c'est le 5 mai, pas de match de Ligue 1.
Tu m'enlèveras pas de l'idée que le jour où il jouera pas 9, il sera meilleur.
Et donc, dimanche,
à gauche contre Marseille, elle était extraordinaire. À l'aller, elle était mieux.
Ah non, pas là.
J'ai sursauté.
Je disais donc, dimanche soir,
c'est une
pas de match,
français,
donc dimanche soir.
La caricature,
stop
d'habitude, la caricature.
Coupez-moi leur micro,
qui a dit ça?
Donc, je disais, dimanche, ton micro est coupé, ça sert à rien. Dimanche, 20h-22h, drôle de dame, parce que lundi, il y a match, et 22h minuit, l'after. Donc, Walid, tu pourras préparer tes arguments, ce sera la dimanche pour parler de Mbappé. Et puis on aura également
avec
un dossier.
GoPro, ils vont se faire un bain de pied.
Un dossier Reims.
Ils vont se passer les pieds.
J'ai dit Louis Enrique est fautif hier, mais c'est fou.
Et un dossier Reims également dimanche, vous êtes coupé.
Mbappé est une.
Dossier Reims, puisque Will Steele a été viré aujourd'hui. Voilà. C'est fini pour ce soir. La libre antenne arrive. Donc l'after continue jusqu'à 1h du matin. Bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot.